Dès qu'il n'eut plus faim, Pinocchio se mit à pleurnicher pour obtenir des pieds neufs. Il n'en était pas question, du moins pas tout de suite. Et pourquoi voudrais-tu que je te refasse des pieds? Pour t'enfuir de nouveau? Pour le punir de ma mauvaise nuit, il fallait au moins le laisser attendre une demi-journée.
Je vous promets d'être sage et de... Tenez, qu'aimeriez-vous que je fasse?
Je le regardai d'un œil noir, un long moment. Parvis, que tu ailles à l'école dès demain?
Si vous me faites des beaux pieds neufs, je vous promets d'aller à l'école dès aujourd'hui.
Je faisais de grands efforts pour garder l'air sévère, alors que je voyais Pinocchio renifler bruyamment. Il devait mériter encore un peu ses nouveaux pieds. Mais je vous assure qu'après quelques remontrances, je pris mes outils et lui fis aussi vite que possible deux beaux pieds neufs.
Laissez-moi les essayer maintenant.
J'eus à peine le temps de raboter ses chaussures qu'il dansait, sautait et faisait des claquettes sur le sol.
Vous verrez que je tiens parole. Je pars aussitôt pour l'école.
Attends un peu, il te faut quelques habits. Mais comme je n'avais pas de quoi changer les semelles de mes pauvres vieilles chaussures, je lui fis rapidement un costume de papier, un chapeau en mie de pain et deux chaussures en écorce de bouleau. Pourtant, je n'étais pas satisfait. Il te manque le principal, lui dis-je.
Et quoi donc? Ma tenue me semble complète.
Je pensais à ton livre de classe. Tu ne peux aller en classe sans livre.
La pudeur faisant taire ce moment au vieux marionnettiste, tout ce que je sais me fut rapporté par un voisin. Sans un mot, Geppetto endossa sa vieille veste et sortit en courant dans la neige. Puis revint peu après en bras de chemise.
Et ta veste?
Je l'ai vendue.
Et pourquoi l'avoir vendue?
Parce qu'elle me tenait trop chaud.
Il paraît que Pinocchio comprit aussitôt et sauta au cou de Geppetto. Et c'est là que tout commença vraiment dans cette histoire. Geppetto s'interrogea souvent sur cette matinée.
Je l'ai bien sûr un peu poussé dehors, en bougonnant. Mais je lui ai tendu une belle pomme, lui ai expliqué le chemin de l'école. Peut-être aurais-je dû aller avec lui. Peut-être aurais-je dû être plus gentil. Peut-être...
Voici en tout cas tout ce que l'on sait. Pinocchio partit en effet sur le chemin de l'école, on le vit bien traverser la route devant l'hôtel de ville, mais pas arrivé.
Aujourd'hui, je vais apprendre à lire, demain j'apprendrai à écrire ou à compter, je gagnerai très vite assez d'argent pour racheter une veste à Geppetto, je la veux en drap blanc, non, en soie rouge ou en velours bleu, faudra juste essayer. Avec des boutons dorés. Mais qu'est-ce que ce bruit? Tim, boum, boum, tim, tim, boum. On dirait de la musique. Faudrait aller voir. Dommage que je doive aller à l'école. Dommage. Mais quelques minutes de retard ne changeront rien à l'affaire. Et puis je rattraperai demain le temps perdu.
Et puis Pinocchio se mit à courir et oublia un peu le chemin de l'école. Plus il courait, plus il entendait distinctement le son des fifres et des grosses caisses. Tout à coup, il se trouva devant un immense chapiteau.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette grande toile?
Voilà la pancarte. C'est écrit dessus.
Je la lirai bien, mais j'apprends à lire demain.
Ah ouais? Attends un instant. Ce soir, grand théâtre de marionnettes.
Et c'est commencé?
Pas encore. 4 sous le billet.
Tu peux me prêter 4 sous? Jusqu'à demain?
Et qui me dit que je te reverrai demain?
Attends, je te vends ma veste pour 4 sous.
Et que veux-tu que je fasse d'une jaquette en papier? S'il pleut dessus, on doit plus pouvoir l'enlever.
Veux-tu acheter mes chaussures?
Elles sont juste bonnes à allumer le feu.
Et mon chapeau?
Faut le donner aux souris.
Et mon livre?
Je n'en veux pas, pour ce que j'en fais de toute façon.
Pour 4 sous, moi je le prends, dit un vieux fripier qui passait par là. La suite se passa dans le théâtre.
Dans notre théâtre, oui, Il y entra, ce Pinocchio, et je vous assure qu'il fit sensation. Le spectacle était commencé. Arlequin et Polichinelle se disputaient, se querellaient, se corrigeaient copieusement comme à leur habitude. Ce soir, ils se battaient pour moi, Colombine. Pourtant, à l'entrée de Pinocchio, ils s'arrêtèrent immédiatement, m'oubliant un peu. Arlequin tendit le doigt d'un geste dramatique, comme il le fait si bien, et lança d'une voix grave et forte
« Regardez! Regardez, mes amis! Voici une marionnette qui vient nous voir à peine construite, ne tenant pas encore sur ses jambes. Il mérite quelques applaudissements d'encouragement. »
Impossible de décrire les embrassades, les caresses que la compagnie tout entière, même le vilain Polichinelle, réserva à Pinocchio. Nous chantions, nous dansions, nous débouchions de bonnes bouteilles. Mais si nous étions émus, le parterre s'impatientait un peu. Il avait payé pour voir la comédie, il voulait voir la comédie, et il ne se priva pas de le signifier. Oh non, je n'ai jamais entendu autant de cris et de huées. Mais malgré mes demandes, les pantins restaient sourds aux murmures et aux sifflets. Au lieu de reprendre le spectacle, ils chantaient et faisaient le tour de la piste, leur nouvel ami sur les épaules. Moi, je m'étais cachée. Et ce qui devait arriver, arriva. Le brouhaha éveilla le montreur des marionnettes. C'était un homme si laid, si sombre qu'il suffisait de l'apercevoir pour trembler de peur. Il portait une vilaine barbe, noire comme la suie. Si longue qu'elle traînait à terre et qu'il marchait sans cesse dessus. Il ouvrait une bouche grande comme un four et ses yeux brillaient comme des lanternes en pleine nuit. Je vous dis tout cela pour que vous imaginiez bien la scène. À peine entré dans le chapiteau, il fit claquer un long fouet orné de clous et de punaises, créant aussitôt le silence et faisant taire tous mes amis.
Qui est ce trouble-fête ? Pourquoi es-tu venu semer le désordre dans mon théâtre et arrêter mon spectacle ?
Les pauvres marionnettes tremblaient comme des feuilles au son de cette grosse voix d'ogre enrhumé. On aurait entendu tomber une plume.
Croyez bien, monseigneur, que ce n'est pas sa faute.
C'était mon courageux Arlequin.
Bon, silence, monsieur. Nous réglerons nos comptes plus tard. Allez, reprenez le spectacle maintenant et tout de suite.
Aussitôt, les marionnettes recommencèrent à jouer, du mieux qu'elles purent. Puis enfin, les applaudissements retentirent. Personne n'osait remuer un fil ni un écrou. Nous attendions l'orage.
« Amenez-moi ce mauvais plaisant, ce Pinocchio, il me manque un peu de bois pour mon feu. »
Arlequin et Polichinelle hésitèrent bien un peu au début, mais terrorisés par le mauvais regard que leur jeta leur maître, ils partirent en courant. Dans leurs bras, le pauvre Pinocchio se tortillait comme une carpe à peine sortie de l'eau. Le montreur de marionnettes attendait en silence, tapant du pied et soufflant. Mais si mange le feu, nous l'appelions ainsi, avait l'air effrayant, ce n'était pas un si mauvais homme. Il observa sévèrement la procession, et une fois qu'il eut entendu assez de soupirs et vu assez de larmes, il se mit à éternuer.
« Bonne nouvelle, mon frère. Si le maître a éternué, c'est qu'il a pitié de toi et tu es sauvé. »
Il faut vous expliquer que, comme Mangelefeu trouvait banal de renifler ou de s'essuyer les yeux, il avait choisi d'éternuer chaque fois qu'il s'attendrissait.
« Bah, cesse de pleurnicher, hein. Tes larmes vont salir le parquet et mouiller mes chaussures. J'ai des crampes d'estomac. Je... »
À vos souhaits.
« Merci. Dis-moi, mon garçon, quelqu'un t'attend peut-être ?»«
Gepetto, celui qui m'a construit. Il serait triste s'il ne me voyait pas rentrer bientôt. »«
Bah, tu as raison, il serait tellement triste si je te faisais jeter au feu, le pauvre homme. Allez, je t'épargne. »
À vos souhaits.
Merci, merci, merci. Mais maintenant, je n'ai plus de feu pour faire rôtir mon mouton. Pour te dire, tu m'aurais bien rendu service. Ah, tant pis. À ta place, je vais brûler un des pantins de ma compagnie. Ils servent si peu, ils sont si mauvais. Oh là, gendarme, hein. Allez, attrapez donc cet arlequin, le plus bavard et le plus bruyant de tous mes pantins. Attachez-le et jetez-le dans le feu. Et appelez-moi quand mon mouton sera bien rôti.
Arlequin en fut tellement épouvanté que ses jambes se plièrent malgré lui et qu'il tomba à plat ventre sur le sol. Moi, je me suis illico évanouie. Heureusement, Pinocchio, à la vue de ce spectacle, alla se jeter aux pieds de Mangefeu et mouilla les poils de son interminable barbe de toutes les larmes de son corps.
Pitié pour Arlequin, monsieur.
Y a pas de monsieur qui tienne.
Pitié, messire le chevalier.
Y a pas de chevalier qui tienne.
Pitié, monsieur le commandeur.
Y a pas de commandeur qui tienne.
Pitié, excellence.
Excellence, bien. Que veux-tu ?
Je vous demande la grâce du pauvre Arlequin.
Y a pas de grâce qui tienne. Puisque je t'ai épargné, il faut le jeter, lui, au feu. Sinon, mon mouton ne sera pas rôti.
Dans ce cas, je connais mon devoir. Attachez-moi et jetez-moi dans les flammes.
Ces paroles, prononcées d'un ton héroïque, firent pleurer toutes les marionnettes qui assistaient à la scène. Même les gendarmes y allèrent de leurs larmes. Mangefeu resta d'abord de glace, soufflant d'impatience. Puis, soudain, il toussa, oh, doucement. Puis, il éternua une, deux, trois fois. C'était gagné.
Ah, toi, tu es un bon garçon, là. Eh, viens m'embrasser, là. La grâce est accordée. Oh, je mangerai du jambon puis du fromage ce soir. Mais à l'avenir, tâche de ne plus interrompre mes spectacles. Et vous, là, allez donc faire les honneurs à votre nouvel ami. Ne restez pas planté là.
Et Mangefeu rentra dans sa roulotte en éternuant toujours.
Colombine, comme tous les autres pantins du théâtre, n'ayant jamais pu pénétrer dans la roulotte de Mangefeu, je dois avouer que nous ne sommes pas certains de ce qui se passa ensuite. Il semble que le montreur de marionnettes fit appeler Pinocchio.
D'abord, jeune homme, où habites-tu ?
Chez Geppetto, qui m'a construit et habillé ce matin, puis donné un livre de classe et qui...
Très bien, très bien. Et quel est son métier, ce Geppetto ?
Il est pauvre.
C'est pas un métier. Du moins, pas encore. Il gagne si peu ?
Oui. Juste ce qu'il faut pour n'avoir jamais un sou sur lui. Figurez-vous que pour m'acheter un livre de classe, il a dû vendre sa veste. Cette veste que j'ai cédée pour 5 sous.
Le montreur de marionnettes partit d'un énorme éternuement et sortit quelques pièces de sa poche.
Ah, oh, pauvre diable. Tiens, voilà un peu d'argent pour ce brave cœur de ma part. Et maintenant, file. Tu m'as fait perdre assez de temps.
Pinocchio ne se fit pas prier. Il remercia Mangefeu, embrassa les pantins, y compris les gendarmes, et repartit en courant chez lui. Il comptait rentrer en quelques heures, mais il n'avait pas encore fait 500 mètres qu'il croisait sur son chemin un surprenant équipage. Un renard boiteux d'une patte et un chat aveugle des deux yeux. Ses deux compagnons d'infortune cheminaient de concert, soufflant, pleurant, geignant et cédant mutuellement.
Tiens, bien le bonjour, Pinocchio.
Comment connaissez-vous mon nom ?
À cause de Geppetto. Je l'ai vu hier soir sur le pas de sa porte. Il t'attendait et tremblait de froid, pauvre Geppetto. N'est-ce pas, messire chat ?
Oui, il tremblait. Il tremblait même de froid.
Pauvre Geppetto. Je vous jure qu'à partir d'aujourd'hui, il n'aura plus jamais froid.
Plus jamais froid, Pinocchio ? Et pourquoi cela ?
Parce que je suis devenu aussi riche qu'un grand seigneur.
Le renard ne put s'empêcher de rire, et vexé, Pinocchio sortit de sa poche les 5 pièces d'or.
Qu'en dites-vous, messieurs ?
Au tintement sympathique des pièces, le renard s'approcha, oubliant de boiter, et le chat ouvrit des yeux comme des lanternes.
Que vas-tu faire de ces pièces, mon ami ?
Tout d'abord, je vais acheter à Geppetto une veste neuve en soie, ou en velours, avec plein de boutons en or, puis un manteau. Et après, j'achèterai un nouveau livre de classe.
Pour toi ?
Oui, pour aller à l'école et apprendre, comme il me l'a demandé.
Mais mon enfant, mon pauvre enfant, regarde-moi. La sotte passion de l'étude m'a fait perdre une jambe. N'est-ce pas, monsieur Chat ?
Une jambe tout entière. Et à moi, elle m'a fait perdre l'usage de mes yeux.
Oublie un peu l'école. Écoute-moi. Veux-tu plutôt doubler la valeur de ces pièces d'or ?
C'est-à-dire ?
Veux-tu transformer ces 5 pièces d'or en 100, 1000, 2000 pièces d'or ? Tu as bien entendu, 2000 pièces d'or. Et pour cela, rien de plus facile. Il faut nous suivre au pays des buses.
Au pays des buses ? Ah non, je ne veux pas aller au pays des buses. D'abord, je ne sais même pas où c'est. Ensuite, je dois rentrer chez moi.
Alors tant pis, n'est-ce pas, monsieur Chat ?
Oui, tant pis pour nous. Pour toi ?
Mais réfléchis bien. Tu tournes le dos à la fortune.
Oui, à la fortune, à l'argent et aux finances.
Mais comment faire pour que ces 5 pièces en deviennent 100 ?
Ou 1000 ?
Ou même 2000 !
Nous allons t'expliquer un secret transmis de père renard en fils renard.
Et de mère chat en fils chaton.
Apprends qu'au pays des buses, il y a un coin de terre enchanté, grand comme un mouchoir. Tu y creuses un petit trou, tu y mets par exemple tes pièces d'or, tu rebouches le trou avec un peu de terre, tu l'arroses, tu y jettes une pincée de sel. Pendant la nuit, les pièces germent et fleurissent et le lendemain matin, tu trouves un bel arbre chargé de pièces d'or.
Autant de pièces d'or qu'il y a de groseilles sur un...
Groseillier.
De châtaignes.
Sur un châtaignier.
De citrouilles.
Bref. Tu veux nous suivre ?
Pourquoi pas, finalement. Dès que j'aurai eu ma première récolte, je prendrai 2000 pièces pour moi et je vous en ferai cadeau de 500, au moins.
Un cadeau ? Pourquoi faire ?
Tu veux nous offens... Nous offens...
Nous offenser ?
Quel brave gens ! Je garderai donc tout. Eh bien, allons-y, je pars avec vous. Je rentrerai chez moi dès fortune faite.
Les trois compères marchèrent toute la journée en bavardant gaiement. Le chat lançait parfois de sa voix de ténor enrouée quelques couplets napolitains. Le renard tapait du pied, frappait des mains. Il ne s'interrompait que lorsqu'un merle ou une mésange venait faire connaissance avec leurs griffes ou leurs dents. Il était temps de dîner. Le renard désigna une auberge sombre et quelque peu vétuste, l'écrevisse rouge. Le trio y fut accueilli joyeusement par une espèce d'ours mal léché, vêtu d'un immense tablier rouge sang. Il invita à s'asseoir les trois compères autour d'une table ronde et bancale. Le chat et le renard regardèrent le menu du jour en soupirant. Ils n'avaient pas faim. Le pauvre chat souffrait terriblement de l'estomac. Aussi ne put-il manger que 14 à 15 rougets à la sauce tomate, 4 portions de tripes à la parmesane, avec triple dose de beurre et de fromage. Le renard aurait volontiers grignoté un peu, mais comme il était à la diète, il se contenta d'un civet de lièvre, accompagné de 3 ou 4 poulets, d'une fricassée de perdrix, de quelques grenouilles, lézards, et d'une bassine de raisins. Pinocchio, lui, mangea un peu de pain en rêvant de pièces d'or. Le dîner terminé, le renard demanda à l'hôtelier 2 chambres pour se reposer quelques instants. Pinocchio s'y endormit aussitôt. Et c'est à minuit passé qu'il entendit une voix crier
« Monseigneur, il est l'heure de vous lever !»
Mes camarades sont prêts ?
Voilà déjà 2 heures qu'ils sont partis. Ils voulaient reconnaître le chemin.
Ont-ils payé le dîner ?
Pensez-vous, ce sont des personnes trop bien élevées pour faire un tel affront à Monseigneur. Ils vous ont laissé l'addition que voilà.
Pinocchio paya donc 1 sequin pour le repas qu'ils avaient pris tous 3 la veille.
Ils pouvaient m'offenser ? 1 sequin tout entier. Tant pis, je me rattraperai demain avec mes pièces d'or.
Pour les rattraper, Pinocchio se mit à courir sur le chemin semé de ravines et d'ornières. À chaque pas, il se griffait le visage aux ronces et aux bruyères. Le jour n'étant pas encore levé, on n'entendait pas un son dans la forêt. seules quelques chouettes, et une chauve-souris venait lui battre des ailes sous le nez. « Qui va là ? » criait-il en sautant en arrière. « Qui va là ?» répéta un lointain écho. Et tandis qu'il cheminait en tremblant, il vit, sur un tronc d'arbre, une surprenante lueur qui brillait doucement.
« Qui approche ? Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ?»«
Je suis une ombre, le fantôme du grillon parlant que tu as abattu d'un coup de sabot. » »«
Et que me veux-tu, grillon ?»«
Te donner un conseil. Fais demi-tour, tout de suite, et rapporte les 4 pièces qui te restent à Geppetto. Il s'inquiète de ta disparition. »
Grillon, demain j'aurai 2000 pièces d'or à lui ramener, qu'il attende.
Ceux qui te promettent de t'enrichir d'un jour à l'autre sont des fous ou des voleurs. Crois-moi, fais demi-tour.
Je veux poursuivre ma route.
Il est tard.
Je veux poursuivre ma route.
La nuit est obscure.
Je veux poursuivre ma route.
Le chemin est dangereux.
Je veux poursuivre ma route.
Il y a des brigands.
Toujours les mêmes chansons.
Tu te repentiras de ne m'avoir pas écouté.
Pour avoir enfin le silence, Pinocchio lança une pomme de pin sur le grillon. Aussitôt, celui-ci disparut et la forêt retomba dans l'obscurité.
Vraiment, il y a de quoi être épuisé par tous ces conseils. Comme si je ne savais pas quoi faire. Des brigands maintenant. N'y crois pas, moi, aux brigands. Et puis, si je rencontrais, je n'aurais pas peur. Je la regarderais droit dans les yeux. Que voulez-vous de moi ? Dites-vous bien qu'avec moi, on ne plaisante pas. Je prendrai une branche et ils verront de quel bois je me chauffe et tire ces cartes et je te cogne et je te frappe entre les deux yeux. Poursuivez votre chemin, messieurs, et laissez-moi en paix. Dès qu'ils entendront ces mots, ils se sauveront comme des lapins. Et s'ils partaient pas en courant, c'est moi qui me sauverai.
Mais laissons plutôt notre ami le grillon raconter la suite de cette histoire. Il nous a donné quelques avis bien trempés sur cette nuit-là dans la forêt. Et puis surtout, il s'est trouvé aux premières loges.
Pinocchio n'eut pas le temps de finir son raisonnement que, comme je le lui avais prédit, se dressaient devant lui deux immenses silhouettes noires.
La bourse ou la vie ?
La bourse ou la vie ?
Pinocchio n'avait pas le temps de cacher ses 4 pièces d'or. Il les fourra donc où il le pouvait, c'est-à-dire sous sa langue.
Sors ton argent de tes poches et jette-le par ici,
dit d'une voix horrible le plus grand. Le pauvre pantin ne pouvait plus parler à cause des pièces cachées dans sa bouche, vous voyez. Il répondit donc par une pantomime.
Allons, arrête tes salamalecs et donne ton argent.
Cette fois, c'était le petit. Pinocchio secouait désespérément la tête comme pour dire « Je n'ai rien en poche !»«
Ah, voir à rien ! J'ai entendu des pièces teintées dans ta bouche. Donne-les ou tu es mort ?»«
Mort et archi-mort !»
Et aussitôt, évidemment, les deux brigands attrapèrent le pantin par le nez et le menton. Ils tentèrent de lui ouvrir la bouche, mal leur en prit. Pinocchio n'entrouvrit ses dents que pour mordre un doigt qu'il coupa net. Bravo, petit ! Encouragé par cette victoire, ne sentant plus qu'une main sur ses épaules, il se dégagea et s'élança dans la forêt. Il sortit alors de sa bouche son trophée, une grosse griffe de chat. Derrière lui retentissaient déjà les cris des brigands. Il se mettait à sa poursuite. « Vite, petit, vite !»« Excusez-moi, je revois cette scène avec tant de précision. » Pinocchio cherchait un endroit où se cacher, aperçut un grand pin et grimpa en haut de sa plus grande branche. S'il ne bougeait pas, peut-être les brigands s'éloigneraient-ils. Malheureusement, le temps passait, mais les deux voleurs continuaient à fouiller le sous-bois. Il s'en fallut de peu que Pinocchio tombe de l'arbre 2 ou 3 fois. Misère, j'en perdis 2 ou 3 grammes, ce qui est énorme et dangereux pour un grillon dans la force de l'âge. Je regardais la scène du haut d'un large pommier. Le soleil commençait à se lever et ses jambes s'engourdissaient déjà. Il fallait qu'il bouge. Doucement, sans rien casser. Mais aïe, au-dessus de sa tête, une petite branche se décrocha et tournoya doucement dans l'air. Attention ! Les deux brigands levèrent la tête en même temps et s'élancèrent aussitôt vers le haut du grand pin. Éloignez-vous, descendez ! Pinocchio secouait l'arbre le plus vigoureusement possible. Enfin, ses efforts furent récompensés. Les deux bandits glissèrent en même temps, battirent l'air des mains et lourdement, très lourdement, s'écrasèrent sur le sol.
Ah, c'est cela ! Tu vas regretter ces écorchures, mon ami.
C'était le plus grand qui parlait, du moins, je crois. Malheureusement, les brigands ramenèrent un fagot de bois sec et mirent le feu au grand arbre. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le pin devint une grande torche agitée par le vent. Pinocchio monta le plus haut possible, mais le feu grimpait encore, le pauvre pantin savait plus que faire. Déjà, l'un de ses pieds noircissait, il pensait à Geppetto, à l'école, aux quatre pièces d'or qui ne lui serviraient plus à rien. Enfin, tout ce que je lui avais dit. Doucement, le faîte de l'arbre se courbait. Pinocchio était sauvé. Ou plutôt... Il descendait directement dans les bras des brigands.
Ouvre ta bouche et donne-nous ton argent. Sinon, tu tâteras du tranchant de ses lames. D'ailleurs, voici un petit acompte.
Oui, un petit acompte.
Heureusement, le pantin était fait d'un bois très dur et les lames se brisèrent en plusieurs morceaux. Les brigands restèrent avec le manche de leur sabre dans la main à se regarder stupidement.
Très bien. Pendons-le.
C'est cela, pendons-le, 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 pendons-le.
Sitôt dit, sitôt fait. Ils lui attachèrent les mains derrière le dos et après avoir passé un nœud coulant autour de son cou, le suspendirent à un grand chêne. Et puis ils s'assirent et attendirent son dernier soubresaut. Mais 3 heures plus tard, le pantin avait toujours les yeux ouverts, la bouche fermée et il gesticulait plus que jamais.
« Bien, nous reviendrons demain et cette fois nous espérons te retrouver moins vaillant, la bouche grande ouverte. »
J'ai bien tenté de volter autour de la corde et de défaire les nœuds, mais trop petit, trop faible, j'ai dû abandonner et me poser au pied de l'arbre.